Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. On connaît la phrase du Petit Prince de Saint-Exupéry et sa question. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. L'évidence même. Et pourtant, chaque année en France, 100 000 chiens et chats sont abandonnés, dont 60 000 pendant l'été. C'est un record européen, paraît-il. Les raisons en sont multiples. En premier lieu, c'est peut-être parce qu'on n'a pas réfléchi avant à ce que la possession d'un animal peut impliquer comme contrainte. Un animal qu'on a trop souvent tendance à considérer comme une marchandise qui serait donc jetable et remplaçable. Alors comment éviter ça ? L'information, la prévention, la sanction ou tout à la fois ? Comment mieux encadrer le commerce et la possession des animaux de compagnie ? C'est ce dont nous allons débattre ce soir avec nos invités Réa Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Loïc Dombreval, vétérinaire, député La République En Marche des Alpes-Maritimes, président du groupe d'études sur la condition animale à l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis en ligne, dans un instant, nous joindrons Stéphane Crozat, responsable de la communication au sein de la Société Vaudoise pour la protection des animaux, avec qui nous vérifierons qu'en Suisse, comme dans la plupart des pays voisins, tout est plus organisé, contrôlé, dans le respect justement de ceux que nous avons apprivoisés. Chiens et chats perdus sans collier, pourquoi tant d'abandon ? C'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. Vos questions et témoignages au 01 45 24 7000.
Yves Decamp, le téléphone sonne.
Pour commencer, première auditrice, c'est Adeline qui nous appelle. Elle est dans le Rhône, je crois. Catherine. Et elle est en Savoie, voilà, j'ai tout faux. Bonsoir Catherine, vous êtes bien là.
Bonsoir. Oui Catherine, je suis en Savoie, non je suis pas dans le Rhône.
Oui, d'accord. Nous vous écoutons.
Voilà, je vous appelle parce que moi j'ai deux chiens que j'ai adoptés. Je n'ai jamais acheté un chien, j'en ai déjà perdu 7. Je n'en ai bien évidemment jamais abandonné aucun. Quel que soit ce qui s'est passé dans notre vie, les décès, les déménagements, on a toujours trouvé des solutions. Nous partons régulièrement en vacances et nous faisons garder la maison par des retraités qui bénéficient de notre maison gratuitement pour venir garder nos animaux. Et je pense qu'il faudrait surtout faire des campagnes publiques pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un animal. Ça n'est pas un article de mode, ça n'est pas une peluche. Et peut-être aussi expliquer aux enfants dès leur plus jeune âge que quand on prend un animal, ça impose des contraintes pour 15 ans. Il faut se lever tôt le matin, il faut le promener, il faut le gérer, ça coûte de l'argent. Voilà, et donc il y a des pays où c'est interdit d'abandonner son animal, on va en prison. En Belgique, les puces électroniques des animaux sont reliées aux cartes d'identité des propriétaires. Et voilà, donc je pense qu'il faudrait beaucoup d'éducation, peut-être aussi un peu de répression, et surtout, n'achetez pas, adoptez.
Merci beaucoup Catherine de Savoie pour ce témoignage. Vous avez tout dit, hein, là, vous avez fait toute l'émission, tous les thèmes ont été abordés. 63 millions d'animaux de compagnie en France, hein, chiens, chats et tous les autres. 52% des Français à peu près ont un animal de compagnie. C'est le record européen, donc je l'ai dit, des abandons. Vous confirmez ça d'ailleurs ? C'est le record européen ?
On est le pays qui avons le plus d'animaux de compagnie.
Oui.
On a le record européen de possession.
Des abandons.
Et donc, j'allais dire presque malheureusement par voie de conséquence, on a aussi le record européen des abandons. C'est bien triste, mais c'est comme
sans
ça.
Sans compter que nous sommes très laxistes en France par rapport à tous ces autres pays. Oui. Et si tout le monde était comme Catherine, je vais vous dire, on n'aurait pas 60 000 abandons en été.
Alors, on va en parler.
On n'en aurait aucun.
On va en parler de tout ça. Réa Hutin, vous, Catherine, nous parlait justement de prévention, de campagne. Pourquoi pas lancer une campagne, disait-elle, justement, c'est ce que vous faites.
Mais vous savez, on est déjà, l'année dernière, on était à 40 millions de vues. On montrait ce que c'était que l'animal de compagnie, c'est-à-dire cet animal qui est attaché à vous de sa naissance jusqu'à sa mort. On le voit vieillir, on le voit mourir à la fin. Donc, on a voulu être dans l'émotion. Cette année, on a voulu mettre vraiment taper des points sur la table en disant ça suffit avec cette nouvelle campagne, avec We Are the Champions de Queen qui chante et tous ces gens qui abandonnent des chats, des chiens, mais aussi des animaux de compagnie comme les nacres, les nouveaux animaux de compagnie, des hamsters, des lapins. Et ils sont finalement fiers de le faire et ils sont en train de chanter « Nous sommes les champions ». Donc c'est vrai que ça a vraiment choqué tout le monde. Et effectivement, ce sont ces campagnes qui réussissent, mais il y a quand même beaucoup de mesures à prendre en plus.
Et justement, toutes ces mesures, on les voit sur votre plateforme. Ce sont plutôt des conseils que vous donnez, comment faire garder son animal.
Oui, c'est nos vacances entre amis pour dire que l'abandon...
Emporter son kit de santé avec soi, etc. Plein de choses pratiques.
Oui, absolument, mais sans compter que nous avons beaucoup de demandes à l'attention des politiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des ventes d'animaux, etc., que nous verrons avec Monsieur Dombreval. Ben
justement, les politiques, ils ont réagi à votre campagne. Loïc Dombreval et beaucoup d'autres parlementaires, 240 parlementaires au total, qui ont signé cette tribune. C'était fin juin dans le journal du dimanche. Un animal ne se jette pas, dit la tribune. Qu'est-ce qui vous a motivé à intervenir? Vous annoncez d'ailleurs une proposition de loi.
Oui, il y a une motivation qui est liée au moment, à l'époque. À l'époque, je parle du mois de juin, qui est avant les grandes vacances, le moment où les abandons sont massifs. D'ailleurs, je salue le travail qui est fait par les associations et les refuges qui sont submergés tous les étés par les animaux abandonnés. Cette tribune, effectivement, qui a recueilli beaucoup de signatures. Le quart des parlementaires français a co-signé. Parce que, au fond, quand on parle de ça, on parle d'animaux qui partagent la vie des Français. Pour la moitié des foyers français, il y a un animal de compagnie, au moins. Et puis, c'est probablement aussi quelque chose qui se réfère à l'attention qui doit être portée à ceux qui n'ont pas la parole, qui sont les plus faibles et les plus petits, et qu'on méprise, et qu'on considère comme des objets, alors que ce sont des êtres vivants doués de sensibilité.
Et ces abandons massifs, dites-vous, c'est indigne d'une société civilisée comme la nôtre.
Et oui, il me semble que c'est indigne d'une société civilisée comme la nôtre, et que là-dessus, il faut être... Alors, on s'en contente pas dans cette tribune de s'indigner, et on propose à la fin la rédaction d'une proposition de loi. Des propositions de loi sur la question d'abandon, il y en a eu beaucoup. Aucune n'a fait loi. Là, l'objectif, je le dis officiellement, et ça a été dans cette tribune parfaitement clair, il faut que cette proposition de loi devienne véritablement une loi, et le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, ce serait éventuellement avant l'été prochain. C'est extrêmement ambitieux. Ou alors avant l'été qui suivra encore. Mais en tout cas, il faut qu'on agisse véritablement. Et il y a plein de paramètres sur lesquels il faut qu'on puisse agir pour pouvoir limiter ces abandons.
Alors vous dites, ça n'a jamais fait loi, mais il y a quand même des lois. Un abandon, c'est 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. La maltraitance animale, c'est 750 euros d'amende.
Attention, on parle d'abandon sur la voie publique. Ça, c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Mais lorsqu'une personne qui, parce que par convenance, a décidé qu'il ne peut pas emmener son animal en vacances et qui se présente dans un refuge en disant « je n'en veux plus », là, ce n'est pas puni par la loi. Il vient se débarrasser de son animal dans un refuge. Et au moins là,
et on
comme
considère
ça,
que c'est abandonné.
Non, ça, c'est
ce
pas,
n'est pas
abandonné.
Un abandon, ça.
Et évidemment, notre combat, ça a été justement d'empêcher les gens d'abandonner sur la voie publique, parce que là, l'animal est condamné. Alors que si vous l'emmenez dans un refuge, en effet, on peut trouver une famille plus aimante, on fait une fiche, il aime les enfants, il aime les chats, etc. Donc voilà, il faut faire la distinction. Et c'est très difficile, évidemment, de choper, entre guillemets, la personne qui abandonne son animal. Encore qu'il y a eu des cas. Et là, effectivement, il y a punition.
Alors cette fois, Adeline du Rhône est bien avec nous. Enfin, j'espère, vous êtes là.
Oui, bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sonne, nous vous écoutons.
Bonsoir, donc je suis vétérinaire dans le Rhône et je voudrais apporter mon témoignage parce que je comprends les difficultés que subissent les associations de protection animale. Nous sommes nous aussi vétérinaires en première ligne. Nous butons sur 3 problèmes particuliers. Le premier, c'est que normalement, par exemple depuis 2012, les chats devraient être obligatoirement identifiés, mais comme nous n'avons pas la fonction de police, nous avons beau informer les propriétaires, une bonne partie d'entre eux refusent l'identification. Ce qui pose problème parce qu'une fois que l'animal est abandonné, puisqu'il n'est pas identifié, on ne peut pas retrouver l'auteur de l'abandon.
Mais pourquoi refuse-t-il ?
Pour des raisons de coût. Et je pense que on en revient aussi à un problème qui est la responsabilisation des gens qui prennent un animal. On a beaucoup de propriétaires qui font des adoptions ou des achats d'impulsion, qui ne se renseignent pas avant sur le coût d'un animal domestique, et du coup donc refusent l'identification ou achètent des animaux en animalerie ou en exposition canine, et puis par la suite se rendent compte que finalement ça ne leur convient pas, et puis décident de les abandonner en association. Alors effectivement, c'est les associations qui récupèrent le problème. Malheureusement, des animaux qui sont abandonnés comme ça très jeunes, notamment dans leurs 2 premières années, on se retrouve avec des problèmes de comportement qui font que ce sont malheureusement des animaux qui sont difficilement adoptables, et parfois, voire souvent, ça peut se finir en euthanasie. Et ce qui nous pose problème, c'est que j'ai l'impression que les propriétaires d'animaux, en tout cas les gens qui veulent adopter un animal, sont très conscients entre guillemets, de leurs droits. Pour eux, l'animal est un droit et ça n'entraîne pas de devoir. Et je suis ravie que l'animal soit devenu un être sensible, mais malheureusement, ça n'est pas suivi de conséquences. Et nous avons à affronter le fait que, par exemple, des portées entières de chatons sont abandonnés devant les cabinets et les cliniques vétérinaires de France, avec juste un petit mot « prenez soin d'eux », des chatons pas sevrés pour la plupart. Qu'est-ce qu'on fait de ces animaux-là? C'est ni bon pour eux, ni bon pour personne.
Merci de votre témoignage, Adeline. Effectivement, vous évoquez le régime juridique qui a évolué depuis 2015, je crois. Les animaux sont maintenant, avant c'était des meubles, maintenant ce sont des êtres vivants, doués de sensibilité, ce qui n'a pas changé grand-chose, Réa Hutin.
Si, quand même, c'était un point de départ. Il faut aller plus loin. C'est la Fondation 30 millions d'amis qui a combattu pour que cette loi passe. Donc, enfin, une loi qui est quand même passée, c'est changer le fondement du droit français, qui est le Code civil, le changer pour qu'elle reconnaisse l'animal comme un être vivant et sensible. Mais il est néanmoins dans la catégorie des biens. Donc, c'est pour ça que nous voulons aller beaucoup plus loin en donnant une véritable personnalité juridique à l'animal pour qu'on puisse combattre choses-là. Et puis, vous savez, il y a quand même un laxisme. Il faut que ces animaux soient identifiés. Il faut qu'il y ait un contrôle. Et la Fondation, chaque année, dépense plus de 3 millions d'euros pour stériliser les chats. C'est-à-dire qu'on passe des conventions avec les municipalités, 30 000 d'entre elles, pour les aider à stériliser les animaux. Donc ça, c'est très important. Deux chats, c'est-à-dire un mâle et une femelle, non stérilisés, en 4 ans, peuvent faire 20 000 chatons.
Vous êtes pour la stérilisation obligatoire comme ça se passe en Belgique, par exemple?
Comment?
Comme c'est le cas en Belgique, je crois.
Oui, absolument. Mmh. C'est pas possible de laisser proliférer comme ça des chats, puisque comme je vous dis, on se retrouve avec 20 000 chats au bout de 4 ans, d'un seul couple de chats, vous vous rendez compte?
Alors Adeline parlait à l'instant aussi de l'identification qui est obligatoire pour les chiens et les chats, mais s'il n'y a pas de contrôle et pas de sanctions, Loïc Dombreval, ça ne sert à rien.
Exactement. Alors, c'est-à-dire
que qu'est-ce qui empêche le contrôle?
C'est une loi qui oblige à identifier son chien depuis 2009 et son chat depuis 2012. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près la moitié des chats, c'est vraiment une estimation, qui sont identifiés, et à peu près les trois quarts des chiens qui le sont. Ce sont vraiment des estimations.
Alors identifier, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on pose sous la peau de l'animal une petite puce électronique avec un numéro et une référence à un
vétérinaire qui fait ça.
C'est ça. Ou un tatouage dans l'oreille avec un dermographe.
Mais ça coûte.
Mais ça coûte effectivement un petit peu d'argent. Et puis on se rend compte qu'effectivement, malgré l'existence de cette loi, les animaux ne sont pas toujours identifiés. Et puis surtout, on ne vérifie pas qu'ils sont identifiés, qu'ils ne le sont pas. Il n'y a pas de contrôle. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour augmenter cette identification? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen aussi d'aider ceux qui sont les plus démunis, qui sont en capacité à accueillir un animal, mais qui sont les plus démunis à identifier leur animal? Parce qu'il y a un problème financier qui se pose, c'est absolument... évident. Et moi, je dis que peut-être qu'il y a une solution qui serait de dire que finalement, quand on a un animal, on est responsable. Cette responsabilité, elle pourrait se concrétiser sous la forme d'un permis. Permis qui aurait une valeur...
Permis de possession d'un animal.
Permis de possession d'un animal. Assorti ce permis de connaissances minimales, de pédagogie d'information minimale sur ce que c'est qu'un animal, comment on l'entretient, combien ça coûte, quelles sont les responsabilités qu'on a vis-à-vis de lui, en particulier l'identification, que ce permis pourrait être gratuit ou coûter, je sais pas, 1 euro symbolique, histoire qu'il y ait un tout petit engagement. Cet euro irait ensuite alimenter un fonds qui permettrait aux plus démunis d'identifier, aux plus démunis de stériliser et de créer une sorte de un euro affecté à l'accompagnement et à la protection des animaux.
Eh bien, justement, vous parlez de permis de possession d'animal. Transition toute trouvée avec ce que font certains de nos voisins, notamment les Suisses, je crois. Bonsoir, Stéphane Crozat.
Oui, bonsoir.
Vous êtes responsable de la communication au sein de la Société Vaudoise pour la protection des animaux. Je crois qu'il existe en Suisse un certificat de possession.
Alors, il y avait par le passé un permis pour la détention des chiens, mais ce n'est plus aujourd'hui d'actualité puisque cela a été abandonné depuis 2 ans faute de succès par rapport aux bénéfices escomptés. Ce permis de détention pour les chiens avait été pensé pour diminuer le nombre de morsures dans le public, et puis finalement on s'est rendu compte que les morsures ne diminuaient pas malgré une sensibilisation et puis des cours théoriques et pratiques donnés aux propriétaires de chiens.
Alors comment ça se passe aujourd'hui?
Aujourd'hui ça se passe toujours la même chose, pas la sensibilisation. Je pense que le problème en France et le problème en Suisse sont très similaires. On a beaucoup parlé, si je dévie un petit peu du sujet, on a beaucoup parlé de l'identification. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Quand on parle d'abandon d'animaux, chez nous en Suisse, on parle principalement de chats. Or, il est trop facile aujourd'hui d'abandonner un chat dans la nature. Là, on parle bien sûr d'abandon sauvage, pas d'abandon aux portes d'un refuge. Alors, il faudrait d'abord passer par une identification de tous ces chats qui sont finalement qui vivent, qui sont errants, et puis une responsabiliser aussi les gens qui les nourrissent. Trop de gens nourrissent des chats, et puis lorsque les animaux, lorsqu'ils déménagent ou lorsque les animaux ont besoin de soins vétérinaires, eh bien, ils se dégagent de la responsabilité finalement de s'occuper du chat qu'ils nourrissaient auparavant. Alors en Suisse, on a justement cette petite particularité, c'est que la loi dit qu'une personne qui nourrit un chat, on devient responsable. Pour autant, bien sûr, le chat n'est pas déjà un autre propriétaire.
Et est-ce que, au niveau de la vie quotidienne, parce que c'est aussi un problème, est-ce que vous êtes comme en Suisse, comme à Berlin ou Amsterdam, c'est-à-dire avec beaucoup d'accès autorisé aux animaux de compagnie, c'est souvent un blocage dans les transports, dans les magasins, dans les restaurants, dans les parcs et jardins?
Alors ici, ben, tous les endroits publics, finalement, sont normalement interdits aux animaux. Maintenant, pour ce qui est des logements, pour ce qui est des... Par exemple, eh bien, la plupart des gérances, des fournisseurs de logements, acceptent souvent les animaux à bien plaire. Malheureusement, c'est pas non plus une assurance. C'est aussi très difficile pour certaines personnes qui doivent se séparer d'un animal parce qu'elles ne peuvent pas garder leur appartement et puis qu'elles doivent aller dans un endroit où il ne sera pas accepté. Il y a des solutions aussi, par exemple, pour les personnes âgées chez nous. Lorsqu'une personne âgée, ben, tout à coup, doit rentrer dans une maison de retraite, il y a des solutions qui sont proposées pour qu'elles puissent au moins garder un contact avec leur animal, même si elles ne pourront pas toujours le prendre avec elles en maison de retraite. En Suisse, il y a par contre quand même aussi, par exemple, beaucoup de maisons de retraite qui acceptent les animaux, et donc les personnes peuvent garder leur animal avec elles, ce qui évite bien sûr des abandons dans les refuges de ces animaux-là.
Merci de votre témoignage, Stéphane Croza, donc Société Vaudoise pour la protection des animaux. Vous évoquez cette question, Loïc Dombreval, hein, dans cette tribune dont je parlais dans le journal du dimanche, le problème des personnes âgées qui vont en résidence, effectivement.
Oui, c'est très triste. C'est très triste parce que on accueille ces gens qui ont souvent pour seul compagnon auquel ils parlent l'animal, et on dit toi tu rentres, mais ton chien tu le laisses dehors. Et donc c'est en fin de vie, c'est rajouter une douleur à la douleur. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on lutte et qu'on légifère. Il faut que les EHPAD et qu'on les oblige à accueillir, à mettre en place des structures qui vont permettre d'accueillir les animaux avec les vieilles personnes âgées qui y rentrent. Je crois que c'est absolument c'est un point essentiel de façon générale. Oui. Il faut aussi que ça n'a rien à voir, mais c'est un peu la même chose finalement. C'est que quand il y a beaucoup de campings ou de structures d'accueil touristiques qui disent vous pouvez rentrer avec votre tente, mais vous laissez le chien dehors. Et donc c'est aussi un motif d'abandon. Et là aussi, il faut qu'on sensibilise et qu'on responsabilise ces structures d'accueil touristiques qui doivent être en mesure d'accueillir l'animal avec la famille.
D'autant plus dommage qu'un animal, c'est bénéfique pour la santé, paraît-il.
Ça n'est pas une vue d'esprit.
C'est comme la musique, ça adoucit les mœurs.
Mais exactement. Et ça n'est pas une vue d'esprit. Ça a été prouvé scientifiquement sur des échantillons, des grandes études américaines qui l'ont prouvé. Baisse de la fréquence cardiaque, amélioration de la fréquence cardio-respiratoire, etc.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Les abandons massifs indignes d'une société comme la nôtre, c'est le sujet du téléphone sonne ce soir. Abandon massif de chiens et de chats, bien sûr. Au téléphone avec nous également Sophie qui nous appelle de Saumur. Bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, je souhaitais témoigner de ce qu'on avait tenté de faire sur la ville de Saumur dont je suis élue. Nous avons, constatant la prolifération des chats et la misère féline dans notre ville, passé un accord avec les vétérinaires de la ville, avec l'intégralité des cabinets vétérinaires de la ville, pour que les personnes à faible revenu puissent venir retirer un bon de stérilisation, amener ce bon chez le vétérinaire. Ils bénéficiaient donc soit d'une stérilisation gratuite selon leur revenu, soit d'un reste à charge de 50 euros. Et le vétérinaire était payé par la ville de Saumur. Or, nous avons dû stopper cette opération qui avait extrêmement bien démarré, puisque l'Ordre national des vétérinaires a demandé aux vétérinaires de la ville d'arrêter cette opération au motif qu'il n'était pas admissible que la ville soit en quelque sorte le tiers payant de cette opération. Alors voilà, donc on a essayé de faire quelque chose d'un peu novateur, qui évitait aux personnes qui n'en ont pas les moyens d'avancer des frais de stérilisation. Et pour l'instant, eh bien, on est en plan.
Donc les vétérinaires n'ont pas été autorisés, c'est ça?
Voilà, c'est tout à fait ça. Il y a eu un courrier de l'Ordre national des vétérinaires leur demandant de stopper cette opération. Voilà.
Merci de ce témoignage, Sophie Réahutin.
Oui, quand je vous disais qu'on dépense 3 millions d'euros justement avec les municipalités pour aider les mairies à stériliser les animaux. C'est-à-dire que nous, on paye cette stérilisation. Mais malheureusement, dans certaines villes, l'ordre des vétérinaires s'oppose à cela parce que c'est un manque à gagner pour eux. Donc, en effet, il y a des problèmes, mais d'une manière générale, ça se passe bien. Il y a beaucoup de vétérinaires qui jouent le jeu, beaucoup de municipalités, et en effet, qui acceptent cette collaboration avec la Fondation 30 millions d'amis pour que nous, on prenne qu'on distribue des bons de stérilisation, et la mairie, de son côté, apporte une petite obole aussi à cette opération. Donc là, c'est gagnant-gagnant.
Loïc Dombreval, vous êtes député, mais aussi vétérinaire.
Oui. Alors, c'est à vous.
Oui, ben alors, il faut que les vétérinaires se saisissent de cette question de façon beaucoup plus intense, de la question de la condition des animaux. Il y a effectivement, les vétérinaires canins gagnent leur vie avec cette activité, mais on doit pouvoir trouver des moyens. Voilà, on doit pouvoir trouver des moyens qui vont permettre d'aller au bout. Moi, quand j'étais maire dans ma commune, j'ai eu aucun souci.
Absolument. Il y a des gens qui jouent le jeu. Oui.
Voilà. Il faut que ça se généralise. Je veux dire, il n'y a pas aucune ambiguïté sur cette question, et je fais en sorte de faire évoluer les choses sur ce sujet.
Alors, voyons ce que pense de tout ça le président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne, qui nous appelle dans le téléphone sonne. Bonsoir. Monsieur Fonbonne.
Bonjour, monsieur Lecomte.
Pour la SPA, le plus important, je crois, c'est d'abord qu'on éduque les jeunes générations, c'est la prévention, c'est ça?
Oui, absolument. La répression toute seule ne sert pas à grand-chose. Et puis, j'ai écouté le direct de votre émission. Ce sont des propos auxquels je ne peux qu'adhérer parce que c'est vraiment notre quotidien. L'éducation, nous la pratiquons dans nos refuges avec ce que l'on appelle l'adoption responsable. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un animal comme une marchandise, effectivement. Mais lorsqu'une famille se présente, on les écoute, on leur fait remplir un petit questionnaire et puis on leur présente l'animal de façon à trouver l'animal qui va le mieux leur correspondre, qui va le mieux les rendre heureux et qui sera la meilleure famille pour l'animal. Alors pour reprendre un peu les sujets qui ont été évoqués, lorsqu'on vient prendre un animal dans nos refuges, il est systématiquement stérilisé. Il est systématiquement identifié, puis évidemment, il a les soins vétérinaires qui lui sont nécessaires. Ceci afin de régler effectivement une partie des problèmes de l'abandon, c'est la prolifération. On a évoqué les chiffres avec les chats. Les directeurs de refuge me disaient aujourd'hui qu'on commence à trouver effectivement des cartons de chatons qu'on nous abandonne devant les refuges. C'est vraiment, vraiment un souci.
Et qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous en faites ?
Pardon.
Qu'est-ce que vous en faites ?
Qu'est-ce qu'on en fait ? On les donne à l'adoption et puis sinon on les garde parce que vous savez peut-être que la SPA refuse l'euthanasie, à part pour les animaux qui sont désespérément malades et puis pour certains chiens qui ne peuvent plus être éduqués et qui sont dangereux aussi bien pour notre personnel que pour les familles qui pourraient les adopter. Sinon on les garde. Nos refuges sont vraiment pleins. Le chiffre d'aujourd'hui, c'est que nous sommes à plus de 8 500 animaux depuis le début de vacances.
Et quand des familles vous apportent des animaux pour vous les laisser, comment ça se passe? Il y a une discussion?
Alors, d'abord...
Quels sont les motifs le plus souvent qui reviennent déjà?
Les motifs, souvent il n'y en a pas, c'est-à-dire que c'est les motifs déguisés, on a pris cet animal, on l'a acheté, on est tous d'accord pour dire qu'il faut arrêter la vente des animaux, c'est pas un bien, c'est pas uniquement un bien, c'est un être sensible comme M. Dombreval le disait tout à l'heure. La consigne que je donne, c'est que je ne veux pas qu'on fasse la morale aux gens. Le plus important pour nous, c'est de sauver l'animal, de le prendre dans un de nos refuges, parce qu'un animal, c'est un animal domestique, un chien ou un chat, quand il est abandonné, il est voué à une mort certaine, il va mourir de faim, il va se faire écraser par une voiture. Dans la majorité des cas, il va finir à la fourrière, et la fourrière, c'est une activité communale administrative, c'est-à-dire que si au bout de 8 jours, le propriétaire ne s'est pas manifesté, la fourrière va essayer de le confier à une association de protection animale. On est tous dans cette situation d'être à bloc en termes de capacité, ça veut dire que la fourrière va les euthanasier. C'est vraiment, vraiment une énorme difficulté que celle de ces abandons massifs, vous en doutez bien, au mois de juillet, au mois d'août.
Merci beaucoup, Monsieur Froban. Juste une dernière question. Quand vous dites qu'il faut interdire la vente des chiens, des chats, c'est-à-dire comment fera-t-on? Alors, juste par l'adoption dans les refuges?
Oui, l'adoption, éventuellement l'achat chez des vrais professionnels. Surtout l'interdiction de sites de vente
en ligne
qui permettrait de vente en ligne. Et puis je crois qu'il faut vraiment réfléchir aux animaleries. Il y a des États américains comme la Californie par exemple qui interdisent aux animaleries de vendre des animaux autres que ceux qui sortent des refuges.
Le Royaume-Uni aussi, oui.
Voilà, le Royaume-Uni, parce qu'on est typiquement dans ce qu'il ne faut pas faire, en ce sens que là l'animal est une marchandise, et puis ce sont des chiots, ce sont des chatons. Il n'y a absolument personne qui résiste au regard d'un chiot ou d'un chaton. On prend l'animal, on sort sa carte bleue, on l'achète, on part avec, et puis effectivement, souvent, on se rend compte qu'au mois de mai, au mois de juin, quand on fait les réservations d'hôtels, de camping ou de vacances, on n'a aucune solution pour faire garder l'animal. Et là, on songe à l'abandon.
On n'a pas assez réfléchi avant. Merci beaucoup, Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA. Merci beaucoup de nous avoir appelé dans ce téléphone sonne. Interdire la vente des chiots et des chatons en animal pour enrayer la reproduction commerciale.
Mais vous savez qu'il y a des dizaines d'usines à chiens, c'est-à-dire où on produit plus de 900 chiens dans une usine. Et
des élevages industriels.
Des élevages industriels et 30 races différentes. Tout ça, ça vient alimenter les animaleries. Et comme disait M. Fonbonne, c'est vrai que les gens ne résistent pas et parfois ils achètent ces animaux à crédit. Avant même que le crédit soit fini d'être payé, ils sont abandonnés. Donc c'est vrai que ça, il faut vraiment réglementer cela et arrêter cette vente en animalerie. C'est vrai que c'est pas possible qu'on puisse produire de l'animal de cette sorte. 900 animaux, vous vous rendez compte? Et là, je parle de chats et de chiens, mais il y a aussi les petits animaux de compagnie. Nous en avons sauvé 5000 dans une usine qui fabriquait des gerbilles, des souris, vous savez, tout ce qu'on trouve en animalerie, parce que la personne avait fait faillite. Heureusement que toutes les associations de France se sont regroupés pour sauver ces pauvres 5000 animaux. Donc, c'est vous dire que c'est des choses qu'on jette comme des déchets.
Ça fera partie de la proposition de loi, Loïc Dombreval?
Tout à fait. Il faut qu'on moralise ce commerce des animaux de compagnie. Vous vous rendez compte qu'il y a des promotions?
Sur les animaux?
Je t'en donne deux pour le prix d'un. C'est ça la réalité. Donc, effectivement. Alors, il y a les animaleries sur lesquelles... Moi, j'ai un avis un peu plus nuancé. C'est-à-dire, je dis peut-être qu'il y a des bonnes animaleries sur lesquelles on est en capacité à travailler pour apporter cette information absolument indispensable, pour faire en sorte qu'il y ait un vrai suivi, pour faire en sorte qu'il y ait une obligation de visite vétérinaire à la suite de l'achat. Pourquoi pas? On pourrait en tout cas travailler sur cette piste-là. Par contre, Internet, il faut vraiment qu'on agisse. On est en train de préparer avec des collègues, je le dis très clairement et un peu officiellement, un courrier pour Le Bon Coin. Il faut qu'on arrête la vente d'animaux notamment sur ce site qui est un site majeur de vente en ligne. Il y a un point qui a été évoqué par le président Fonbonne de la SPA qui concerne l'éducation des enfants. Vous avez commencé l'émission en citant ce merveilleux livre de Saint-Exupéry avec le Petit Prince. Je crois qu'il y a ça serait extrêmement intéressant qu'il y ait dans les programmes scolaires, on en appelle au ministre de l'Éducation nationale, ce respect qui est dû à la vie, à l'animal, à ce qui est vivant.
On demande tellement de choses au programme scolaire, il y a déjà tellement de choses.
On pourrait en rajouter une petite heure sur cette question-là et on économiserait beaucoup beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance.
Mais vous parliez du commerce en ligne. Comment vous faites pour empêcher la vente des animaux sur Le Bon Coin? Comment vous faites?
Il faut contrôler et pénaliser avec une amende forfaitaire ou enfin avoir, si on voit passer des chiots ou des animaux qui sont en vente en ligne sur un site internet. Voilà. D'ailleurs, Le Bon Coin a récemment pris des dispositions intéressantes sur ce qui concerne les espèces sauvages et le trafic des espèces sauvages, et s'est engagé sur cette démarche-là. Il faut qu'il aille maintenant sur l'animal de compagnie, qu'il aille plus loin, et on va sérieusement l'inciter à le faire.
Autre intervention, autre témoignage ou question dans le téléphone sonne, c'est Agnès qui nous appelle de Fontainebleau. Bonsoir Agnès.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai simplement récupéré un petit chat il y a quelques années. Je pense qu'il avait été noyé parce qu'il est traumatisé par l'eau. J'ai trouvé écrasé sous un pied de cheval. Je l'ai sauvé, il était vraiment écrasé. Il a été tatoué. Depuis, on m'a imposé, parce que je voyageais beaucoup à l'étranger, la puce électronique. Ce petit chat, qui a maintenant 15 ans, a été perdu deux fois depuis 4 ans, isolé dans des caves parce qu'il voyageait beaucoup. La puce électronique n'a servi à rien. Et simplement, c'est le tatouage avec les affiches partout, les affiches toujours, l'acharnement, les affiches pour le retrouver. Donc j'aimerais qu'on essaie d'arrêter cette histoire de tatouage, de raquette, quand on dit qu'on doit voyager, etc., avec ce tatouage, avec cette puce. Le tatouage est pour moi essentiel si on veut retrouver son animal. Voilà, c'était le témoignage que je voulais donner. Merci. Parce que c'est vraiment important.
Merci Agnès. Pourquoi privilégier la puce au tatouage?
On peut faire les deux. Vous savez, avec le tatouage, il y a aussi des problèmes. Nous, nous recueillons des chiens à qui on avait coupé l'oreille pour qu'on puisse pas lire le tatouage. Vous savez, dans les refuges, il y a des dizaines de chiens avec l'oreille coupée, justement, pour enlever le tatouage. Donc, en effet, il y a cette grande discussion puce ou tatouage. Mais c'est quand même plus facile de mettre une puce que de tatouer un animal. De plus en plus de vétérinaires ne savent plus le faire, d'ailleurs, parce que c'est quand même quelque chose artistique de tatouer dans l'oreille. Donc, en effet, mais vous savez, le tatouage ou la puce, ça donne une identité à votre animal. C'est la seule façon de le retrouver en cas de perte ou de vol, surtout, de prouver que l'animal est à vous.
Ou d'abandon.
Ou d'abandon, oui, mais là, il coupe l'oreille, ou il sort la puce.
Je parlais de la puce, oui.
Pardon.
Alors, on parlait tout à l'heure avec notre interlocuteur suisse des facilités accordées aux propriétaires de chiens et de chats. Alors, Marie-Claude Parmel nous dit qu'en revanche, il y a un problème, c'est avec la SNCF. La SNCF ne facilite pas le voyage avec son animal, puisqu'il faut aller en gare prendre le billet de l'animal, même si on a déjà un billet électronique. Hein. Plusieurs de ces réclamations sont restées sans réponse. Et il y a aussi le problème des restaurants, des hôtels qui refusent les chiens, même quand ils sont dans un sac. Voilà. L'abandon serait moins fréquent, nous dit Marie-Claude, si on facilitait les voyages avec nos animaux.
C'est ce que font les Italiens. Il y a une grande compagnie de rail italienne qui a récemment mis en place une gratuité pour le transport des chiens au mois de juillet et au mois d'août. Donc il faudrait, ça serait bien que la SNCF, hein, que Guillaume Pépi applique ça également en France. Alors je dis pas que c'est simple, hein, mais en tout cas...
Alors le gros chien, ça occupe une place quand même.
Les Italiens le font. Oui, bon après on pourra regarder dans les détails, mais en tout cas c'est quelque chose qu'ont mis en place les Italiens avec un certain succès. Sur la question d'identification, j'y reviens quand même, c'est vraiment le point clé, me semble-t-il, Présidente. Il faut qu'on sanctionne le défaut d'identification. Il faut qu'on le sanctionne. Et il faut que celui qui... l'animal abandonné identifié, qu'il y ait une amende forfaitaire qui soit portée à celui qui a abandonné l'animal identifié.
Sauf qu'il dit qu'il l'a perdu, vous savez, ça c'est le truc. Il s'est perdu, oh là là.
À ce moment-là, voilà. Il le récupère, on s'assure qu'il le récupère.
Et il vaut mieux qu'il ne le récupère pas, parce que s'il l'a abandonné...
Rôle important à jouer. Oui, mais voilà, enfin, en tout cas, il y a des choses comme ça qui pourraient être dissuasives au moment où quelqu'un acquiert et prend possession d'un animal.
Alors, question qui nous arrive de très loin, de la Réunion, qui s'adresse à vous et particulièrement à vous deux, et particulièrement à vous, Monsieur Dombreval, puisque c'est un monsieur, je crois, qui souhaite attirer votre attention sur la situation des animaux domestiques dans les DOM,
bien sûr. Hein,
où les abandons ont lieu toute l'année et pas seulement au moment des vacances. Question qui nous vient de la Réunion.
Je pense que la présidente Hutin peut aussi y répondre, mais on sait parfaitement qu'il y a dans les DOM de vrais problèmes avec la protection animale, avec la condition animale, avec l'abandon, avec les combats de chiens, avec toute une série de choses. C'est pas une spécificité des DOM, mais c'est vrai c'est particulièrement vrai là-bas. Alors les raisons pour lesquelles c'est particulièrement vrai dans les DOM, je ne les connais pas, mais c'est une réalité.
Dans les départements d'outre-mer où il y aurait beaucoup d'élevages illégaux, nous dit ce correspondant, des animaux vendus sur le Bon Coin ou Facebook, sans que personne n'intervienne. Autre témoignage, c'est Estelle cette fois qui nous appelle de Nantes. Bonsoir Estelle.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, bonsoir, Estelle Prié-Ducasse. Je suis élue du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires dans les Pays de la Loire.
Ah, vos oreilles ont sifflé alors, c'est ça.
Donc mes oreilles ont sifflé très fortement, effectivement. Et j'ai aussi le plaisir de participer à la commission bien-être animal du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Donc elles ont sifflé doublement. J'aurais aimé réagir d'abord sur la remarque donc de l'élu de Saumur, je m'excuse, je n'ai pas retenu son nom, concernant la campagne de stérilisation qui avait été organisée par la mairie, et donc le courrier du Conseil national de l'ordre qui aurait interrompu cette campagne. Et donc les conséquences affichées comme quoi le Conseil national de l'ordre s'opposait aux campagnes de stérilisation organisées par les mairies. Donc, il faut être un petit peu plus rationnel que cela. Les vétérinaires sont obligés d'obéir à un code de déontologie. Et aujourd'hui, dans leur code de déontologie, il est interdit de facturer un tiers. C'est comme ça que c'est stipulé. Ça n'empêche pas un gros travail avec les associations de protection animale. Ça n'empêche pas un gros travail qui a déjà été fait pour mettre en place qui existe déjà dans certaines régions, des conventions tripartites avec des mairies, des associations de protection animale et des vétérinaires. Parce qu'effectivement, comme Madame Hutin l'a souligné, énormément de vétérinaires jouent le jeu, comme on dit. Et en l'occurrence, il n'est difficilement entendable que les vétérinaires refusent de faire de la protection animale sous prétexte qu'ils ont du manque à gagner. Ça, c'est quelque chose qui est difficilement entendable au vu du nombre de vétérinaires qui font des soins gratuitement ou à moindre coût pour justement permettre la stérilisation, l'identification, soit des animaux errants. Il y a des campagnes de stérilisation dans les mairies et je fais partie des vétérinaires qui ont une convention avec leur mairie ou qui pratiquent des tarifs permettant aux personnes un peu défavorisées de justement... être un peu plus dans les clous.
Restez avec nous, Estelle, parce que c'est vous, Madame Hutin, qui avait dit ça tout à l'heure. Les vétérinaires font ça pour
non, à cause du manque à gagner. Non, je disais surtout que heureusement que beaucoup jouent le jeu, comme dit Madame. Oui. Et en effet, c'est la seule solution puisque nous réglons les frais vétérinaires. Nous réglons les frais vétérinaires de centaines de vétérinaires à travers la France qui font ces stérilisations. Donc, je crois que c'est quand même un petit problème technique parce que la plupart du temps, ça se passe bien, mais dans certains endroits il y a quand même des gens qui rechignent un peu à ça à cause du tiers, etc. Mais changeons les règles, ça serait bien.
D'accord, Estelle.
Voilà, c'est le sujet dont il faut débattre. C'est effectivement comment s'organiser avec les associations de protection animale et les mairies pour que ce problème soit vraiment pris en charge. Mais les vétérinaires s'impliquent déjà énormément.
Eh bien, merci en tout cas de votre intervention. Quelque chose à rajouter, Loïc Dombreval?
Non, c'est la réalité. Quand j'étais maire, j'ai jamais eu ce type de problème. Ouais. Je sais qu'il existe parfois, mais ça me semble être extrêmement ponctuel et assez rare. Voilà, il faut juste que ça n'arrive plus du tout.
Est-ce qu'en fin d'émission, je peux me permettre une supplique au ministre de l'Agriculture?
Allez-y.
La canicule qui est annoncée là pour lundi, c'est-à-dire toute la semaine, il va faire 30-40. Il y a des animaux d'abattoir qui vont voyager. Il faut qu'instamment, ils interdisent les voyages d'animaux d'abattoir pendant les temps de canicule. Parce que dans ces camions où les animaux sont entassés, c'est juste horrible. Et ce cynisme de dire de toute façon, ils vont mourir, ils vont à l'abattoir, leur a imposé cet enfer avec 50 degrés à l'intérieur des camions. Il faut vraiment arrêter ça.
Ça avait été le cas à la fin du mois de juin. Hein.
Il avait proposé chez Monsieur Bourdin, d'ailleurs, mais le lendemain, il a fait volte-face, il a dit non. Et le scandale a continué. Donc, je vous en supplie, arrêtez les transports en ce moment.
Alors là, on n'est plus dans les animaux de
compagnie. Oui, non, mais quand même.
Un mot d'ailleurs, Monsieur Dombreval, est-ce que dans la proposition de loi, il sera question, par exemple, des animaux de cirque?
Non.
Que certains voudraient interdire, comme
elle,
vous le savez.
Elle est pour l'instant, dans cette proposition de loi telle qu'elle a été rédigée par, enfin en tout cas imaginée par les co-signataires, les parlementaires, elle est centrée sur l'animal de compagnie. Maintenant, vous savez qu'il y a un groupe de travail qui s'est réuni pendant 2 mois, sous l'égide de François Drugy, et donc maintenant de Elisabeth Borne, pour travailler sur les animaux sauvages en captivité, cirque, zoo, delphinarium, les orques et les dauphins, les animaux élevés pour leur fourrure. François de Rugy devait prendre 20 décisions au mois de septembre. J'étais le député de la majorité qui avait été choisi pour travailler dans ce groupe de travail. Je serai évidemment extrêmement attentif. Vous avez passé un message à Didier Guillaume. Je serai extrêmement attentif à la reprise en main de ce sujet par Elisabeth Borne,
oui,
pour faire
absolument.
En sorte d'avancer de façon significative.
C'est-à-dire avancer, les interdire,
Je suis pour l'interdiction de la faune sauvage en captivité, et cela rapidement. Tous les pays européens, les uns après les autres, prennent ces dispositions. Il faut qu'on soit capable d'en faire autant en France.
Donc plus de lions, plus d'éléphants au cirque.
Non.
Alors deux petites remarques encore d'auditeurs, hein, que j'entends parler d'usines de production de chiots, d'éducation, oui, au respect de la vie de l'animal, très bien, mais qu'en est-il des animaux produits par milliards chaque année pour notre consommation? Bon, c'est Laurence qui nous écrit ça par mail, et Pascal qui nous demande que faire de notre animal lorsqu'il y a un problème de santé du propriétaire.
Bon, là, c'est des cas de force majeure, en effet. Il faut essayer de trouver une solution, et au pire, il y a tout. On a 250 refuges de la Fondation qui attendent ce genre de cas de force majeure, comme les personnes âgées ou des personnes malades. En effet, on est là pour recueillir ce genre d'animaux.
Mais on est au cœur effectivement du métier que des refuges, où ça n'est pas un abandon. C'est comment dirais-je, la vie et la force des choses qui font qu'on est obligé de séparer.
Un cas de force majeure.
Voilà. On devrait recueillir que cela, d'ailleurs.
Merci à vous, Réa Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis, dont je rappelle qu'on peut aller sur votre site pour trouver toutes sortes de conseils très pratiques. Loïc Dombreval, vétérinaire, député des Alpes-Maritimes, président du groupe d'études Conditions Animales à l'Assemblée Nationale. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à Étienne Bertin à la réalisation de ce Téléphone Sonne. Pierre de Certaine et Emma Ferret pour la préparation. Mathilde Sourd à la documentation. Loïc Frapsos et Stéphane Boja étaient à la technique. Merci à eux. Il est 20h sur France Inter.